Voilà, c'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Mutumba. Commande à la présentation.
Merci Tina Salama, bonsoir. Suite de la crise à l'Assemblée nationale, la majorité présidentielle confirme sa participation à la conférence des présidents devant fixer l'ordre du jour de prochaine plénière. Quelle analyse faire de cette crise? C'est le sujet de la partie débat de ce dialogue entre Congolais, mais à suivre en seconde partie notre entretien avec Madame Sylvana Ardia, greffier de la Cour pénale internationale en visite en RDC. Pour le débat sur la crise à l'Assemblée nationale, nous recevons le professeur Moïla Kimbe. Il est en ligne depuis la France et il est directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy et président de la Fédération des Congolais de l'étranger en France. Et dans ce studio, Maître Patty Joseph Lendo, analyste politique indépendant. Bonsoir à vous, maître et professeur. Voilà.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes bien là. À tous, bienvenue dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Suite de la crise à l'Assemblée nationale, la majorité présidentielle confirme sa participation à la conférence des présidents devant fixer l'ordre du jour de prochaine plénière. Quelle analyse faire de cette crise? Avant le débat, le député national de l'AMP, Aubin Minaku, confirme à Radio Okapi la participation de la majorité présidentielle à la conférence des présidents. Cette réunion, annoncée par Vital Kamerhe dans son discours d'ouverture de la rentrée parlementaire, devra, comme d'habitude, fixer l'ordre du jour des prochaines plénières. L'AMP affirme cependant avoir déjà enclenché les mécanismes de déchéance du président de l'Assemblée nationale, conformément au règlement d'ordre intérieur de cette institution. On écoute le député Aubin Minaku au téléphone de Mireille Bokassa.
Nous allons présenter les griefs portés à sa charge devant la plénière de l'Assemblée nationale. Il y aura un débat et au terme de ce débat, nous allons voter. Quels sont les griefs? Plus précisément, vous les saurez lorsque nous allons présenter formellement la motion au niveau de l'Assemblée nationale.
Et vous la présentez quand cette motion?
Bon, là, c'est une donne en rapport avec la petite stratégie normale de tout groupe, notamment de l'AMP. Vous le saurez au moment opportun.
Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale a annoncé la tenue d'une conférence des présidents. L'AMP va y participer?
Bon, nous ne sommes pas là, nous, AMP, pour casser notre Assemblée nationale. Oui, la conférence des présidents, il n'est pas exclu que nous puissions revendiquer nos droits au niveau de la conférence des présidents.
Maître Patty Joseph Lendo, comment vous analysez justement ce qui se passe à l'Assemblée nationale?
Je pourrais peut-être vous surprendre en vous disant que j'analyse cela avec beaucoup de sérénité parce que cela procède en fait de l'esprit, si vous voulez, ou de l'âme démocratique. La RDC a fait son choix, et bien c'est le sommet de la démocratie. La démocratie nous oblige à accepter de tels soubresauts politiques, d'autant plus qu'il nous permet en fait à forger davantage ce que nous cherchons. Avoir être établi dans notre pays l'état de droit. Et l'état de droit en démocratie, ben, c'est en fait cette confrontation permanente au sein de la société politique entre le politique et le juridique. Et c'est en fait la gestion de certaines passions politiques au sein de différents groupes qui gouvernent en fait la République. Donc, à ce niveau, je peux me dire que je suis pleinement citoyen et j'applaudis à ça, à tout ce qui se passe, d'autant plus que, ou je pourrais dire, pour autant que c'est là, puisse aboutir à affermir davantage la démocratie, non seulement dans les textes, mais aussi dans l'esprit des uns comme des autres.
Donc pour vous, cette situation qui menace presque la stabilité de l'Assemblée nationale est bonne pour la démocratie de la RDC?
Je vais vous dire une chose, vous savez, la démocratie n'est pas la démocratie de la RDC. La démocratie, c'est une donne universelle. Voyez-vous, que l'on essaie en fait d'intégrer dans des espaces bien établis que nous appelons des États. Voyez ce qui se passe en Israël. Vous n'allez pas me dire que c'est antidémocratique. C'est ça en fait la démocratie. Mais là où le bas blesserait, si l'on s'écarte en fait des mécanismes que la démocratie elle-même a prévus pour en fait résorber pareille crise, si crise il y en a, mais je peux vous dire, en âme de constitutionnalistes qu'il n'y a pas encore de crise institutionnelle. Ce sont en fait des passions politiques qui essaient de gangréner le fonctionnement d'une institution démocratiquement établie. Mais crise constitutionnelle, eh bien, elle pourra arriver comme elle ne pourra pas arriver selon que les uns ou les autres auront compris le souci en fait du peuple congolais avoir sa démocratie à l'aide et de l'avant.
Oui, professeur Monestini.
Mais disons que pour l'instant, je ne sais pas s'il faut vraiment parler d'une crise institutionnelle, pour la simple raison que nous ne sommes pas, pour peu qu'on puisse savoir, dans la situation de la crise institutionnelle au sens de l'article 85 de la Constitution, c'est-à-dire les circonstances graves menaçant d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité territoriale, interrompant le fonctionnement régulier des institutions et obligeant de ce fait le chef de l'État soit de proclamer l'état d'urgence ou l'état de siège. Donc, nous n'en sommes pas encore là. Et ce qu'on nomme crise pour l'instant, c'est encore une tension, certes vive, mais une tension à l'intérieur du PPRD et de la majorité présidentielle, qui pour l'instant n'a pas encore bouleversé les institutions au sens de l'article que je viens de citer, et on peut espérer que si de bonne foi, de part et d'autre, comme Maître vient de l'indiquer, les procédures sont suivies, l'esprit démocratique est respecté, l'intérêt supérieur du Congo est respecté à la fois par ceux qui veulent que Kamere parte et ceux qui souhaitent qu'il reste, à partir de là, le débat peut avoir lieu, mais peut avoir lieu conformément à la Constitution, dans le respect des lois, et on verra à l'arrivée qu'est-ce qui peut s'en dégager. Mais pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas aller vite en besogne en disant qu'il s'agit d'une crise institutionnelle qui n'existe pas encore pour l'instant.
Oui. Alors, l'actualité, c'est que tout le monde attend maintenant la convocation justement de cette conférence des présidents, hein, présidents des groupes parlementaires et présidents de différentes commissions, réunions qui doit fixer l'ordre du jour. Et le Vital Kamerhe a déjà annoncé qu'à cet ordre du jour, il va inscrire sa démission. Comment, professeur Moïla Tchimbe, vous analysez jusque-là les comportements ou les attitudes des uns et des autres, c'est-à-dire Vital Kamerhe et de l'autre côté l'ANP?
Disons qu'il y a deux choses qu'il faut avoir présentes à l'esprit, c'est quelles sont les compétences à la fois du chef de l'État et les compétences du président de l'Assemblée nationale pour pouvoir se faire une idée de la querelle d'aujourd'hui. Si on regarde bien la Constitution, on peut partir du principe que le chef de l'État, étant le représentant de la nation, le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté, du respect des traités internationaux, c'est l'article 69 de la Constitution. Ensuite, le président de la République est le commandant suprême des forces armées, c'est l'article 84. Alors, de bonne foi, on peut penser que, étant le garant de la nation, étant en même temps le chef suprême des forces armées, s'il a pris la décision de faire entrer en République démocratique du Congo un contingent de forces armées rwandaises, il s'agit soit de respect des conventions ou des traités existants, je fais allusion ici au protocole sur la sécurité qui a été signé dans le cadre du pacte sur la sécurité, le développement dans la zone des Grands Lacs.
Donc là, professeur, là donc vous revenez à ce qui serait à la base en fait de la tension au sein de la NP qui oppose Kamerhe.
Pour comprendre ce qui se passe, il faut revenir à la base, voir pourquoi aujourd'hui on parle de crise, même si on ne sommes pas dans le cadre de la crise institutionnelle. La première chose à apprécier, c'est quelles sont les compétences que la Constitution donne au chef de l'État par rapport à la décision qu'il a prise et à la réaction du président de l'Assemblée nationale. Alors, je rappelais ici que le chef de l'État, étant le garant, le représentant de la nation, le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des accords et traités internationaux. En plus, il est le chef suprême des forces armées. Alors, partant de ces deux principes, l'article 69 et l'article 84 de la Constitution, on peut de bonne foi, au nom de l'intérêt supérieur du Congo, considérer que, en acceptant l'entrée sur le territoire national du contingent militaires du Rwanda afin de traquer les FDLR et autres forces négatives, on peut partir du principe qu'il le fait, non seulement dans le respect de la Constitution et des accords conclus, mais il le fait aussi en partant du principe qu'il ne peut pas s'engager dans cette démarche sans être assuré que l'objectif primordial est l'intérêt supérieur du Congo.
Oui, professeur,
c'est une question de bonne foi en fonction des institutions et des prérogatives des uns et des autres pour l'instant.
Oui,
bon, parce qu'on n'a pas fait la démonstration que cette opération n'a pas été décidée pour défendre les intérêts supérieurs de la République démocratique du Congo.
Oui, professeur, je ne voudrais pas... par conséquent, allez-y, terminez votre idée.
Donc, par conséquent, on peut toujours de bonne foi, parce qu'en droit, il faut toujours présumer la bonne foi de la personne qui a des responsabilités jusqu'à la preuve du contraire.
Oui,
donc de bonne foi.
Oui, professeur,
on peut penser que...
Oui, professeur, excusez-moi, parce que là, nous revenons évidemment sur l'origine de la tension, notamment les propos de Vital Kamerhe, mais ce n'est pas vraiment le sujet du jour. Mais je voudrais savoir très rapidement avec vous, professeur, est-ce que vous comprenez les attitudes des uns et des autres, c'est-à-dire l'AMP qui, avec malgré tout ce qui est arrivé, tient au départ de Kamerhe. Kamerhe, d'accord, mais ça doit se passer en plénière. Alors, en une minute, professeur, vous comprenez les comportements des uns et des autres?
Ben, disons que comprendre, c'est-à-dire quoi? Comprendre, c'est partie du principe que est-ce que la demande de démission de Kamerhe formulée par sa propre majorité est-elle légale? Dans la mesure où la constitution congolaise ne prévoit pas le principe de mandat impératif, si Kamerhe accepte de démissionner, il le fait pour des raisons politiques. Parce que juridiquement, il n'est pas obligé de démissionner parce que une partie de sa majorité ou la totalité de sa majorité le lui demande. Le Congo ne reconnaît, la constitution congolaise ne consacre pas le principe de mandat impératif. Donc par conséquent, nous sommes là dans le cadre de recherche de compromis. Kamerhe peut bien dire, ben voilà, j'appartiens à la majorité, il y a eu ce qu'il y a eu, j'accepte de partir pour des raisons politiques. Ce qui est convenable, ce qui est compréhensible, ce qui peut être accepté. Mais ceux qui le demandent ne peuvent pas le demander à partir de principes de droit, parce qu'il n'y a pas de mandat impératif.
Merci.
Donc si la Constitution avait consacré le mandat impératif,
oui,
ceux qui exigent sa démission auraient été fondés en droit de le faire.
Voilà.
La deuxième observation,
oui,
c'est que quand bien même Kamerhe accepterait, pour des raisons politiques, d'aller dans le sens de ce que lui demandent les membres de sa propre majorité, et il faut que cette demande respecte les procédures prévues par le droit congolais.
Oui.
C'est-à-dire, il faut que ce soit devant la plénière,
oui,
puisque c'est la plénière qui est la seule instance compétente en la matière pour recevoir la démission du président Kamerhe de l'Assemblée nationale.
Oui, professeur, évidemment, nous sommes avec vous. Il y a Maître Patty Joseph Lendo, professeur Moïse Chimbé, vient d'évoquer le mandat impératif. C'est un concept que Vital Kamerhe a utilisé hier, que le mandat de député national n'est pas impératif. Ça veut dire quoi?
C'est juriste. Je voudrais vous dire une chose.
Oui.
J'ai suivi le professeur. D'abord, je vais vous dire ceci. C'est que quand on parle de la crise, ce n'est pas la crise dans le sens de l'état d'urgence ou état de siège.
Mmh.
C'est plutôt la crise dans le fonctionnement même des institutions. Voyez-vous, tout part en fait du principe de la séparation des pouvoirs, bien sûr, mais lequel principe ne voudrait pas que cette séparation se fasse de manière brute et même, je dirais, brutale, et que cette séparation des pouvoirs s'entend en fait dans un sens du fonctionnement harmonieux entre institutions, et que notre constitution a bel et bien prévu l'hypothèse où il s'avérerait que des mésententes surgissent dans le rapport entre l'exécutif et le législatif.
Mmh.
Ici, il ne faut pas perdre de vue que le Parlement, la Chambre basse, l'Assemblée nationale, mmh, comme le président de la République, sont en fait l'émanation du peuple. Et la crise rentrerait en fait dans ce qu'on pourrait appeler la crise de légitimité entre les deux instances émanant effectivement d'une même chose que le peuple.
Et je voudrais vraiment que vous précisiez un mandat. Peut-être on va retourner vers le prof Moïla Chembe, mais par rapport au mandat impératif, et puis que vous essayez de nous dire votre point de vue hein, par rapport à l'attitude des uns et des autres,
oui,
et puis
oui, les titres oui,
pour l'avenir.
Le mandat, moi je n'ose pas croire que le problème c'est situé au niveau du mandat impératif des députés, oui. Parce qu'on ne demande pas au président Kamere de démissionner en tant que député élu. Voyez-vous, en fait, donc, le mandat impératif, la Constitution parle du mandat du député national et non du mandat de membre du bureau de l'Assemblée. Donc là, il faudrait que nous fassions un peu le petit distinguo pour que cela soit clairement dit dans les esprits qu'on ne touche pas la qualité du député national, mais laquelle qualité ? Le député tient cela du peuple par la voie électorale, mais ici, en fait, on touche à la qualité des membres du bureau. Et ici, j'avais dit que la petite gymnastique de l'esprit voudrait que nous fassions la part des choses entre deux aspects, l'aspect juridique et l'aspect politique.
Alors, pour revenir alors, au concret, pratiquement à ce que les auditeurs qui nous suivent attendent de vous, ce qu'ils disent aussi sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale, je vais vous lire très rapidement, il y a Bobo Aboko qui nous écrit de Kisangani dans la province orientale, il estime que la polémique autour de la démission de Vital Kamerhe permet aux Congolais de mesurer le niveau de la classe politique congolaise qu'il juge lui-même regrettable. Kakoli Sefou Gustave de Kalemie Katanga invite le président Kamerhe à suivre l'exemple de Thabo Mbeki qui avait démissionné suite à la demande des membres de son parti au lieu de se justifier à tout moment. Que l'ANP prenne ses responsabilités en sachant qu'elle constitue déjà une famille et que le lien s'installe de l'avant-famille, dit-on. C'est l'avis de Toussaint Ebola depuis Bukavu au sud de vous. Comment vous réagissez à ces messages des auditeurs?
Non, il est vrai que faut pas, c'est quand même malheureux que l'on soit arrivé là où on en est. Ça veut jusqu'à preuve du contraire, je continue à croire que le président de la Chambre basse du Parlement s'appelle M. Kamerhe. Et à ce titre, la nation lui doit certains égards. Voilà, c'est ça en fait la démocratie.
Mais sur le plan politique.
Aussi, sur le plan politique, vous direz. Le mal du Congo, c'est quoi? Tout est politique et tout est même politisé. Voyez-vous? En fait, ben, ce que je regretterais, c'est quoi? C'est que si vraiment nous étions trop ancrés dans le méandre de la haute politique, c'est quoi des choses qui allaient se régler, je pourrais dire, d'elles-mêmes, sans que la nation tout entière en fasse une fièvre comme on en voit aujourd'hui. Ça constitue maintenant à la une des discussions et ça capte tout le monde. La nation ne se gère pas comme ça. S'il y avait, vous avez évoqué, un des auditeurs a évoqué le cas de l'Afrique du Sud, mais ici, il ne faut pas perdre de vue que, je l'ai toujours dit, nous devons faire un effort, non seulement d'avoir un système démocratique, mais de procéder nous tous à la culture de la démocratie dans le mental de chacun d'entre nous dans la société.
Mais Sampati, Joseph, excusez-moi, est-ce que par là vous voulez dire que vous, vous comprenez et vous donnez raison à Kamerhe de ne pas accepter de démissionner en dehors de la plénière?
La Constitution, comme le règlement d'ordre intérieur, ne renseigne pas suffisamment sur la manière de démissionner. Mais je sais seulement une chose, c'est que la Constitution congolaise dit ceci, nul ne peut être forcé à faire un travail contre son gré, voyez-vous, et que la démission ne peut pas faire l'objet d'un débat au niveau de la plénière. Ça non, à tout cas sur le plan des droits. Mais ici, le problème c'est lequel? À suivre l'évolution, je peux me dire, sans que ce risque d'être contredit, que les cogitations politiques n'ont pas permis à la nation de pouvoir arriver au résultat que les politiciens ont escompté, évidemment, ceux de la majorité présidentielle. Et que maintenant, il ne faut pas être naïf pour dire que la bataille aujourd'hui, c'est maintenant au niveau des textes. C'est ainsi que j'ai noté hier, je crois, en suivant les médias, que la majorité est en train de concocter une motion. Mais cette motion-là, maintenant, pour que la motion puisse passer, on doit l'étoffer, on doit la motiver, pour qu'elle puisse en fait être, je pourrais dire, logiquement soutenable.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire
non,
quoi?
Là,
on va la motiver comment?
Non, là je disais ceci pour mieux me faire comprendre, c'est que la démission, c'est le fait d'un homme. C'est mon tout proprio que je peux démissionner. Pour des convenances personnelles.
Okay.
Je peux déposer ma démission. On ne peut pas me juger pour ça. On peut me tenir devant la justice. Mais quand vous voulez me faire partir de là où je suis, si jamais j'étais le président Kamerhe. Là, maintenant, nous sommes sur le terrain juridique. Voyez-vous, il faudrait que la majorité peaufine en fait le texte de la motion. et la motion ne va pas se reposer sur des considérations purement politiques ou politiciennes.
Ouais.
Là, il faudrait vraiment activer le droit pour que dans le débat,
ouais,
la nation ne puisse pas noter une quelconque mauvaise foi antidémocratique.
Voilà. Professeur Moïna Chiembe, je vais vous demander d'être un peu concis, c'est dommage, parce que on va pas avoir tout le temps dans ce dialogue entre Congolais pour aborder cette question. Professeur, finalement, la situation qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, et particulièrement le cas Vital Kamerhe, même ses collègues du bureau, forcés à démissionner par leur parti politique, ça rappelle un peu la situation d'Olivier Kamitatou à l'époque, et on peut en citer encore d'autres, hein, Yves Kisombé, tout ça avec le MSC. Finalement, le rapport entre les partis politiques et leurs représentants au niveau des institutions, Vital Kamerhe disait dans son discours, il faut éviter l'intrusion des partis politiques, presque le dictat des partis politiques sur leurs membres. Comment vous, vous analysez cela?
Mais c'est le moins que l'on puisse dire est que, franchement, cette situation qui vient d'être créée par, à la suite de, comment dirais-je, de la déclaration de Kamerhe et l'engagement ou la demande de sa démission par sa propre majorité, tombe au mauvais moment. Parce que quand on regarde les défis que le Congo a relevés et les intérêts, l'implication des intérêts nationaux du Congo, c'est pas le moment de distraire le pays ou de l'engager dans ce genre de bras de fer. Parce que l'une autre question est la suivante. Est-ce que aujourd'hui, n'y a-t-il pas un risque que le président de la République soit entré dans un piège qui consisterait à l'amener loin dans une crise, laquelle crise diviserait sa majorité et lui priverait, au cas échéant, de la possibilité de gouverner pour les deux années qui restent, la mise en mouvement de ce chantier et la capacité qui lui reste encore deux ans pour diriger le pays. Je m'explique. Souvenez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, en septembre 2007, 310 députés avaient initié une proposition de loi demandant au chef de l'État de violer la Constitution en acceptant la modification de l'article 152 de la Constitution,
oui,
notamment la composition du Conseil supérieur de la magistrature.
C'est
la clé de voûte de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Oui.
Dieu merci que le président de la République a eu la lucidité et le courage politique de désavouer ce député apprenti sorcier qui lui demandait de violer la Constitution et de créer une crise. Est-ce que aujourd'hui, tous ceux qui sont derrière la démission de Kamerhe, est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'entraîner le chef de l'État dans une crise qui paralyserait le pays? Prenez un exemple banal.
Oui.
Si demain, Kamerhe refusait de partir,
oui,
et que la plénière le confirmait, qu'est-ce qui se passerait? Le chef de l'État n'aurait qu'une solution de dissoudre l'Assemblée nationale. Or, on ne sait pas si l'Assemblée était dissoute, quelle serait la conséquence de vote. À supposer que Kamerhe démissionne, et que, comme le vote est secret, ce soit un candidat de l'opposition qui devient président de l'Assemblée nationale, le chef de l'État aura deux ans avec deux présidents du Parlement qui ne sont pas de sa majorité.
Oui.
Vous voyez ce que ça peut faire.
Oui, mais professeur Moïna Tchimbe, est-ce que c'est aussi normal qu'un élu arrive à l'Assemblée nationale ou même provinciale et puis refuse d'appliquer la politique de son parti politique?
Non, dans le cas de ce que... Je ne sais pas exactement s'il y a d'autres choses que nous ne connaissons pas. Encore
c'est un
moi,
autre
si
que...
Pas,
c'est un autre
que... Je pense tout simplement à la déclaration faite sur votre antenne,
oui,
qui a entraîné le fait que Kamerhe ait dit qu'il n'a pas été informé par le chef de l'État. Mais bon sang, le fait que Kamerhe n'ait pas été informé n'est pas un délit. Ça ne remet pas en cause l'engagement du chef de l'État au nom de la nation et des compétences que lui donnait la nation.
Oui, excusez-moi, parce que là...
Permettez que je finisse de mots.
Oui,
le président de l'Assemblée nationale, il dit qu'il n'a pas été informé. Ah, si vous avez même que Kamerhe ait dit qu'il n'est pas d'accord avec la décision du chef de l'État. Ça n'engage que sa personne en tant qu'individu dans une société démocratique, dans un État de droit, Le président de l'Assemblée peut dire la décision du chef de l'État, je ne la partage pas, mais il n'engage pas l'Assemblée nationale. Il ne s'agit pas d'un vote de l'Assemblée. Il peut s'exprimer comme individu, bien sûr, sa majorité peut le regretter, mais ce n'est pas un délit. Ça n'engage que sa personne.
Oui,
par conséquent, on est là dans une querelle qui peut déboucher effectivement sur une crise demain. Alors qu'on est parti sur vraiment des broutilles, ça ne méritait même pas la peine d'engager le pays dans une possibilité de crise, alors que M. Caméré dit qu'il n'a pas été informé. Mais d'ailleurs, la Constitution dit que le président de la République, s'il s'agit par exemple d'un accord, d'un accord simplifié, c'est-à-dire qui n'est pas ratifié, qui passe par le gouvernement, le gouvernement l'adopte en conseil des ministres, en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Et il n'est pas dit que on informe le président de l'Assemblée, informe le président du Sénat.
Merci beaucoup.
Et je n'ai même pas dit dans quelles conditions l'information doit passer et combien de temps. Le constituant ne le dit pas. Donc on ne peut pas spéculer sur les choses qui n'existent pas constitutionnellement parlant.
Voilà, je suis vraiment désolé, hein, mais j'espère qu'on va vous retrouver, professeur, très prochainement pour en débattre encore. Il nous reste peut-être 1 minute 30 avec maître Patrice Joseph Lendo. Je reviens encore sur le comportement des élus vis-à-vis de leur parti.
Vous savez, la démocratie suppose aussi la discipline au sein des partis politiques ainsi que la confiance entre les structures gouvernantes des différents partis. Mais il est vrai qu'au Congo, cette discipline ainsi que cette confiance ont toujours fait défaut. Souvenez-vous de ce qui s'était passé sous le MPS4, vous avez évoqué les cas Kamitatu, vous avez évoqué les cas Yves Kisombe. Ce sont des précédents, vous savez, Yves Kisombe est flottant au sein de l'Assemblée nationale.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, tu es désolé, là, on a pris beaucoup de temps.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à éduquer davantage la masse ainsi que la classe politique, parce qu'il n'est pas trop tard pour apprendre. De manière à ce que nous puissions arriver à forger au sein de notre société congolaise la culture de la démocratie.
Voilà.
Croyez-vous, sans cela, on n'arriverait vraiment pas à grand-chose dans cette démocratie. C'est vrai qu'une démocratie de façade, c'est pas vraiment ce qui nous attend.
Voilà. On va prendre deux autres réactions avec Willy Akonda. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Claude. Nous avons Mathieu Flory de Béni qui invite bien sûr le président de la République, Joseph Kabila, à plus de modération dans cette affaire. Et d'éviter de tomber dans les jets de mauvais conseillers qui pourraient se trouver autour de lui. Et enfin, Faustin Kambeya Chabani, étudiant à l'université de Lubumbashi Katanga, qui exhorte les deux parties, donc d'éviter de durcir leur position, qui risque de compliquer davantage cette situation. Pour lui, la population attend autre chose que des querelles inutiles.
Voilà, 30 secondes à vous, je suis désolé, professeur Moïla, 30 secondes, hein.
Ben, je partage entièrement l'avis de ces deux intervenants. Il faut de la modestie, il faut le compromis. Il ne faut pas brûler la maison pour le plaisir de brûler. Le Congo a besoin aujourd'hui d'aller de l'avant. Ce n'est pas en créant une crise de toutes pièces qu'on aidera le chef de l'État. Je pense que c'est un piège. Il faut que le président de la République résiste et refuse de tomber dans ce piège.
Merci beaucoup, maître Patrice Joseph Lengo. 30 secondes aussi.
Mais je dirais avec Charles Pasqua dans son ouvrage « Ce que demande le peuple » ainsi que Félix Oiseau quoi, dans sa chanson « Que demande le peuple » aux politiciens de comprendre réellement ce que demande le peuple pour que leur action s'inscrive dans le sens de ce que veut le peuple.
Merci beaucoup, maître Patrice Joseph Lendo, et à vous aussi, professeur Moïla Chiembe. La partie débat de ce dialogue entre Congolais s'arrête ici, mais bien sûr sans transition, parole à la CPI, précisément avec madame le greffier de la Cour pénale internationale, Arbia Silvana, arrivée dimanche dernier, poursuit son séjour en République démocratique du Congo. Après des rencontres avec des autorités congolaises, elle se rendra à Ituri où elle tiendra des sessions de sensibilisation interactive avec toutes les couches sociales. Elle situe sa visite dans le cadre de la coopération entre son institution, la CPI, et la RDC. Où en est la CPI avec les dossiers Jean-Pierre Bemba, Thomas Lubanga, Mathieu Ngouzolo, Germain Katanga, sans oublier la question du mandat contre Bosco Ntaganda? Réponse dans cette interview que nous accorde Sylvana Arbia, greffier de la CPI. Madame Sylvana, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes arrivée à Kinshasa depuis dimanche, d'après le porte-parole de la CPI dans notre pays, votre collègue Paul Madigui. Donc, Madame Sylvana Arbia, vous inscrivez votre séjour dans le cadre de la coopération entre la RDC et la CPI. Il est question que vous rencontriez les autorités congolaises. Comment ça se passe?
Nous, on a besoin de la coopération des États et surtout d'un État comme la République démocratique du Congo, un État qui est très concerné dans le travail de la CPI. Donc, vous savez, il y a cette situation sur laquelle on a un procès en cours, un procès qui va commencer bientôt contre Katanga Ngudjolo. Il y a des mandats qui doivent être encore mis en exécution. Donc, on a beaucoup de travail à faire encore en coopération avec la République démocratique du Congo.
Quand vous dites que ces procès vont commencer bientôt, c'est quand exactement?
Et cette année, bien sûr, il n'y a pas encore une date fixée. Et les juges sont en train de faire des consultations avec les parties, les poursuites et la défense, pour fixer une date. Mais certainement cette année.
Toujours, d'après votre porte-parole donc de la CPI-ANDC, que vous allez sensibiliser, expliquer à la population le rôle de la CPI. Est-ce que vous avez l'impression que le rôle de la CPI n'est pas bien compris en RDC?
Oui, il faut encore beaucoup de travail pour faire comprendre exactement quel est le rôle, quelles sont aussi les limites de l'exercice de juridiction de la part de la CPI. La CPI agit sur la base de la complémentarité, une fois que le CPI est en mesure de mener des poursuites, des enquêtes et des procès sur les crimes internationaux. Il n'y a plus de rôle pour la CPI, mais pour le moment, la CPI a été saisie des situations, je répète, par un pays, par les pays concernés, par le DRC, et donc il doit suivre, son travail.
Et lors de votre première visite, parce que ça c'est la deuxième, vous avez exprimé la gratitude envers les autorités congolaises. Est-ce que vous maintenez la même attitude ou gratitude vis-à-vis des pouvoirs de Kinshasa de la
République? Oui, si on a des détenus à l'aise, c'est parce que les autorités congolaises ont fait le nécessaire pour assurer ces détenus à la CPI, pour la justice de la CPI. Donc ça, certainement, on ne sera pas effacé. C'est de toi qui parle. Ce sont des personnes qui ont été arrêtées grâce à la coopération de ce pays et j'espère que cette coopération continue.
Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de Mathieu Ngudjolo et Germain Katanga. Vous dites que le procès c'est prochainement, mais on sait qu'il y a un procès déjà en cours, notamment celui de Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, où est-ce qu'il en est?
Donc, les procédures concernant M. Bemba sont à un stade qui n'est pas encore au moment du procès, proprement dit. C'est une procédure qui concerne le stade de la confirmation des charges. Et donc, cette confirmation des charges a été déjà considérée. Il y a eu des audiences où les juges de la chambre préliminaire ont entendu les parties sur les preuves qui comportent les charges que l'accusation a formulées contre M. Bemba. Les juges ils sont retirés pour délibérer sur cette confirmation de charges et sont issus une décision qui, par laquelle le procureur est demandé de soumettre des arguments et si le procureur entend changer ou indiquer des modalités de responsabilité différentes par rapport à celles qui ont été indiquées dans l'acte d'accusation initiale, dans la charge initiale, et notamment d'indiquer une forme de responsabilité d'un commandant, d'un supérieur, quelqu'un qui est responsable pour des faits commis par des gens sous son commandement ou sous son supervision.
À travers cet acte qui demande, du moins des juges qui demandent au procureur de requalifier les charges de Jean-Pierre Bemba en tant que responsable individuel, est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a pas suffisamment de preuves qui impliquent Jean-Pierre Bemba dans les crimes commis en Centrafrique?
Pas du tout. Les juges ont dit clairement que cette décision ne précise pas la décision finale sur le fond. Seulement, ils sont indiqués, et ça c'est dans le pouvoir des juges, cette forme de responsabilité comme une forme de responsabilité appropriée.
Donc,
possible, c'est-à-dire c'est au procureur maintenant de déposer, formuler des charges sur cette indication.
Et là donc on doit attendre jusqu'au mois de juin, sans juin.
Le procureur a un délai pour déposer des arguments sur cela, c'est-à-dire jusqu'au 30 mars. Après, la défense aussi a un délai pour répondre, pour contredire jusqu'au 24 avril. Et depuis cette date, il y a le délai de 60 jours pour la délibération, pour la décision.
Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Est-ce que le procureur il peut encore maintenir sa décision de poursuivre Bemba si sa responsabilité nullité personnelle pénale, son cas individuel, ou bien il doit l'abandonner pour voir l'aspect Bemba commandant militaire.
Non, je dis que c'est les juges n'ont pas encore décidé sur le fond. Ils ont seulement donné des indications au procureur dans ce sens-là. Et maintenant, rien n'est prévu, c'est-à-dire les juges n'ont rien décidé encore.
Là, c'était le cas Bemba. Et pour le cas de Thomas Lubanga, pourquoi il y a tant d'audiences à huis clos dans ce procès?
Oui, alors l'audience à huis clos, c'est une exception. La règle, c'est l'audience publique, s'agissant d'un procès pénal.
Et pourquoi la cour d'exception à propos de Lubanga, justement?
Oui, alors dans le système de la cour, la protection des témoins est essentielle. On ne peut pas prendre des risques pour cela. Donc s'il y a une possibilité que l'identité du témoin puisse être révélée, ou l'image du visage du témoin peut être visible au public, alors il faut éviter cela. Il faut protéger le témoin coûte qui coûte. Et donc il y a beaucoup d'exceptions parce qu'il y a beaucoup d'occasions où il y a ce risque, c'est-à-dire de ne pas assurer la protection du témoin et de ne pas révéler son identité au public, bien sûr.
Ouais, puisque vous citez les témoins, on a vu justement des témoins au cours de ce procès de Thomas Lubanga se rétracter. Est-ce parce que leur protection n'est pas suffisamment assurée?
C'est pas cela. C'est tout à fait normal qu'un témoin soit pas sûr de rendre tel ou tel témoignage, qu'il y ait des perplexités au moment où il se trouve au banc des témoins. Et il y avait déjà une préparation plus que suffisante concernant la protection, concernant la familiarisation de ces témoins. Mais et vous savez, quand un témoin se trouve devant une chambre, devant les juges, c'est toute une autre chose.
Il y a sûrement des témoins qui vous suivent. Et quelles sont les dispositions que prend le greffe? Parce que c'est vous qui êtes greffier de la CPI. Quelles sont les dispositions que vous prenez pour rassurer les témoins et les victimes?
Oui, c'est une responsabilité du greffe de protéger les témoins, de faire tout le nécessaire pour que le témoin se familiarise aussi avec les procédures avant de rendre son témoignage. Mais on a aussi eu de bonnes... Les témoins, après avoir rendu leur témoignage, ils sont beaucoup appréciés les mesures d'assistance, de protection qu'ils ont reçues. Donc, c'est un très bon succès sur ce côté.
Voilà. On a vu, pour boucler ce dossier de Lubanga, on a vu sur des vidéos des témoins qui étaient cachés par une mosaïque. Comment peut-on croire qu'il s'agit des vrais témoins ou victimes?
Ces témoins sont cachés au public, mais c'est possible de les voir à l'audience, c'est-à-dire l'accusé peut voir le visage du témoin.
Vous avez rencontré les autorités congolaises, je suppose que vous avez parlé aussi du cas Bosco Ntaganda.
Oui, j'ai parlé du cas Bosco Ntaganda, puisque ça existe. Les chambres de la CPI sont en mandat contre cette personne. Et quand il y a un mandat d'arrêt, et ce mandat doit être mis en exécution.
Et vous l'avez demandé aux autorités de quelque chose?
Oui, j'ai demandé, c'est normal.
Qu'est-ce qu'elles vous ont dit?
Ils ont bien compris qu'il y avait besoin de la justice. Ils m'ont fait comprendre qu'il y a des difficultés. Ils m'ont fait comprendre que c'est vrai qu'il faut trouver des solutions.
Tout le monde sait, on a suivi le président de la République. Il a dit au sujet de Bosco Ntaganda qu'il n'est pas question aujourd'hui que vous attendiez de la RDC et sa collaboration parce que la RDC est le pays qui est, ça c'est, je cite encore le président de la République, qui est le plus collaboré avec la CPI et que pour le moment, il n'est pas question. Qu'est-ce que vous allez faire?
Et vous savez, la justice doit toujours suivre son cours. Et nous, on doit toujours demander que les mandats soient mis en exécution. Les niveaux politiques, les discours politiques ou les engagements politiques, c'est un autre niveau. Et non, c'est pas possible, ce n'est pas acceptable d'interrompre un cours, le cours de la justice, pour des raisons politiques.
Vous allez faire quoi? Vous allez insister ou vous allez faire quoi maintenant? Parce que la position de Kinshasa est connue. Vous allez faire quoi?
Oui, il n'y a pas le choix. C'est qu'il faut comprendre. Il n'y a pas le choix. Quand il y a une décision des juges de la CPI, il n'y a pas le choix. On ne peut pas choisir d'arrêter un processus judiciaire.
Ouais. Au mois de septembre de l'année dernière, la CPI s'est déclarée très préoccupée par ce qui se passait à l'est de la RDC, mais depuis, il n'y a plus rien. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe en termes d'enquête, par exemple, dans cette région?
Mais sur l'enquête, je ne peux pas vous parler des enquêtes, puisque les enquêtes, surtout c'est un stade initial, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas des décisions que le procureur décide en public, on ne peut pas parler de ça, vous savez bien, mais en principe, s'il y a des preuves, s'il y a des preuves valables, on peut s'attendre que le procureur formule des charges.
Voilà. Vous savez, dans notre pays, il y a un moment où il y a quand même une tension entre la majorité au pouvoir et le président de l'Assemblée nationale. Et dans la foulée, il y a des activistes des droits de l'homme qui ont été arrêtés, notamment le président de la Voix de Sans Voix. Comment vous avez réagi à cela?
C'est pas mon rôle de réagir à ces événements. Moi, je demande de m'occuper du bon fonctionnement de la CPI et surtout, je répète, d'assurer la coopération afin que les décisions de la CPI soient mises en exécution et que la justice puisse suivre son cours.
Et pour terminer, que pouvez-vous dire des réactions que le mandat d'arrêt contre le président soudanais Béchir a suscité? Je crois que vous avez suivi, de par le monde, il y a eu beaucoup de réactions.
Vous savez, la justice est un service public et c'est normal qu'il y ait des critiques, des commentaires, des réactions, c'est tout à fait normal, c'est pas nouveau. Mais la justice suit son cours, c'est-à-dire il y a une décision des juges de la Chambre préliminaire 1 qui a issu ce mandat d'arrêt et maintenant par la suite, ce mandat doit être mis en place.
Le président soudanais a décidé de la soudanisation, donc il a dit que d'ici un an, toutes les ONG internationales actives au Darfour vont laisser la place aux Soudanais. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau de la CPI, vous devriez privilégier la paix plutôt que d'activer des poursuites qui peuvent envenimer la situation telle qu'elle est vécue au Darfour?
La Cour, je répète, rend un service en justice. Et la justice, depuis que les tribunaux existent dans le monde au niveau national, sert la paix. Et tout ce qui fait la CPI, le fait au bénéfice de la paix. S'il y aura d'autres interprétations, moi je le laisse à ceux qui interprètent et font des commentaires, mais reste la base fondamentale que la justice est au service de la paix.
Après Béchir, bien sûr, il y a 3 Congolais qui sont à la CPI. Et certains ont l'impression que les protecteurs de la CPI restent braqués sur l'Afrique. Est-ce que vous ne pensez pas que la CPI pourrait aussi regarder ailleurs? Pourquoi pas en Palestine, par exemple, où on a vu la Russie intervenir en Géorgie? Tout ça, ça n'intéresse pas la CPI?
Oui, bon, ça vient du choix qu'il y a d'une information pas correcte qui circule, parce que les situations dont la CPI s'occupe à présent sont des situations qui ont été référées ou par les États concernés, et je parle du DC, je parle de l'Ouganda et de la République centrafricaine, sont trois pays africains qui ont référé à la Cour leur situation. Il y a une autre situation, Darfour-Soudan, qui a été référée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y en a pas jusqu'à présent une enquête faite par le procureur de la CPI proprement, ce qui signifie qu'il n'y a aucune intention de viser des pays africains ou de voir des pays africains comme unique objet des enquêtes des poursuites de la CPI.
Je crois que vous avez suivi des leaders africains au niveau de l'Union africaine, le président sénégalais l'a dit. Vous avez suivi peut-être.
Oui, je répète, je respecte des commentaires ou des critiques, mais il faut quand même que l'information soit reportée à ce qu'est la situation effective et concrète, c'est-à-dire les situations ont été référées par les pays africains. Donc si les pays africains ont fait confiance à la Cour, mieux que d'autres pays, ou pour l'instant, c'est les pays africains qui ont fait cette confiance en référant à la situation, ce n'est pas une décision de la Cour, c'est une décision des pays eux-mêmes, des pays africains eux-mêmes.
Est-ce que vous avez un dernier mot avant de boucler cette interview?
Oui, et la coopération de ce pays, de la République démocratique du Congo, a été très bonne, a été toujours très appréciée et je souhaite, j'espère que cette coopération continue. C'est important, pas pour la CPI, mais pour le pays, parce que c'est un service que la CPI veut rendre au pays.
Et vous voulez qu'elle continue, surtout pour le cas de Kagame, n'est-ce pas?
Pour tous les cas sur lesquels il y a des décisions du juge de la CPI.
Madame Sylvana, je vous remercie.
Merci à vous.
Voilà, c'était Madame Sylvana Arbia, greffier de la Cour pénale internationale, que nous recevions dans ce studio Jérôme Gongo de Radio Okapi. Et c'est par cette interview que nous mettons fin à cette émission Dialogue entre Congolais. Rappelons que nous avons démarré ce magazine en première partie
par le débat des deux analystes sur la crise de l'Assemblée nationale. Il s'agit du professeur Moïla Tsimbe, qui intervenait depuis la France, et Maître Patrice Joseph Lendo. Paul Badianyama était à la mise en onde. Guy Maté, Kéline Kouté, Willy Akonda et Jean-Paul Tumba Kamanga, nous vous disons merci de nous avoir suivis.